Nous poursuivons notre rétrospective de l'année écoulée avec un des faits marquants de 2018, l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Il y a tout juste un mois, le 4 décembre, nous avons initié une rencontre entre plusieurs Gilets jaunes basalpins et la députée La République En Marche, Emmanuelle Fontaine-Domézel. Face à elle, un jeune chômeur, un retraité, une intérimaire et un invalide. Dialogue difficile, mais dialogue quand même. Ce qui est tout à l'honneur des participants et illustre bien aussi le rôle que peut jouer un média indépendant comme le nôtre. Retrouvant ce moment de radio fort et intense. Animation, François Malabave. Deux mots dominent l'actualité, gilet jaune.
Cela fait 3 semaines que ce qu'il convient d'appeler une fronde populaire occupe le champ de l'actualité, et d'un mouvement d'ampleur à des échauffourées ultra-violentes à Paris, mais aussi à Toulouse, Marseille ou Avignon, c'est peu de dire que la situation s'envenime et dégénère. Aujourd'hui, alors que le ministre de l'Intérieur, le basalpin Christophe Castaner, passe une audition au Sénat sur ce samedi de chaos dans la capitale, ici à Manosque, nous ouvrons le dialogue avec nos invités. Sont présents, bien sûr, des gilets jaunes de Manosque et du Val-de-Durance, mais il y a aussi la députée de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, Emmanuelle Fontaine-Domézel. Elle nous donnera son sentiment sur ce week-end très mouvementé qu'elle a vécu. Merci à tous d'être là. On va rappeler très brièvement que le jaune de ce symbole des gilets jaunes, c'est celui des traîtres dans le cadre des syndicats, par exemple, c'est celui du cocufiage dans les rapports amoureux, il ne faut pas l'oublier, et les gilets jaunes, c'est quand même une invention qui a été faite pour tout simplement sauver les vies des personnes qui ont des accidents sur la route, et nous sommes obligés, tout un chacun et tous les conducteurs, de porter un gilet jaune. Mais depuis quelques mois, les gilets jaunes s'affichent, et je suis ravi de pouvoir accueillir ici des gilets jaunes qui viennent de notre département pour parler de leurs revendications. Je suis ravi aussi d'accueillir une députée du peuple français qui vient écouter et qui nous donnera son avis sur ce mouvement. Je vous propose d'écouter, juste avant de parler et d'entendre nos invités, d'écouter ce que disaient les gilets jaunes à Gap, dans les Hautes-Alpes, ce samedi soir. Samedi soir, vous vous souvenez, ces images terribles à Paris. Deuxième soirée épouvantable à Paris, d'émeutes avec des choses qui sont terribles à voir. Ça n'était pas le cas à Gap, ça n'était pas le cas non plus, heureusement, à Manosque ou dans les départements des Alpes du Sud. Mais vos collègues, messieurs et madame des Gilets jaunes, étaient à Gap et nous donnent leur avis, justement, sur ces échauffourées à Paris. On se retrouve tout de suite après pour des interventions en direct.
Donc ce qu'on demande, c'est la suppression des taxes, tout ça, les retraites, les salaires, et puis ce qu'on pense surtout de ça, ce qu'on fait actuellement, là, c'est pour ceux qui sont derrière nous, pour nous aussi, ceux qui sont derrière, nos enfants et petits-enfants, hein, et que si on n'a jamais vu, comme à l'époque actuelle, c'est malheureux, d'avoir un gouvernement, d'avoir 3 pantins comme on a là-haut, qui nous mettent vraiment, si on se laisse faire, ils vont nous écraser vraiment abominable. Moi, je pense qu'ici, ça fait quand même un peu plus de 15 jours qu'on est là. Hein, on essaie de défendre comme on peut à gauche à droite. Hier, il pleuvait tout le jour. On était là, on défend quand même, malgré qu'il y ait aussi des cons qui nous ont cassé la cabane, hein, qui ont dû te bien payer pour le faire. Et ça a tout été refait. Hier, trempé comme des canards, on était là. Aujourd'hui, on est là. Bon, on est quand même pas mal soutenus. Hein. Bon, il y a toujours quelques-uns qu'on essaie d'arrêter, mais qui malheureusement nous foncent dessus. Bon, on s'écarte, il vaut mieux que de faire. Mais ces gens-là, bien souvent, ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Hein. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas plus riches que nous. Hein.
Alors, vous savez peut-être ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui. Ouais. On pourrait croire que c'était une scène un peu apocalyptique de début de guerre civile, on pourrait dire. Donc, qu'en pensez-vous? Quels sont vos sentiments à ce sujet?
Ben moi, je pense que là, comme Macron, au point où il en est, là, moi, j'ai connu 68. Là, donc, le week-end dernier, ça s'est mal passé. Là, encore un peu plus mal passé. Je pense qu'il continue, on y va. Mais je pense que ça va être mal bon pour lui, tous ceux aux alentours. Hein. Je pense que c'est pas la solution, quand même. Il y a des moyens, quand même. Nous, comme bien sûr, on a entendu tout à l'heure, il y en a, ouais, vous faites grève, vous emmerdez, on l'a entendu tout à l'heure sur la route. Mais on a dit, mais on le fait, c'est quand même pour vous. Voilà, les gens descendent dans la rue, beaucoup râlent derrière la télé, tout ça. L'autre jour, on a défilé dans Gap, beaucoup nous regardent. Ce matin, on est allé au marché, on nous regarde, voulant dire, les gens ne sont même pas, croient qu'ils ne sont pas intéressés, quoi. On dirait qu'ils ont des salaires, des retraites de ministres.
Alors, la République est censée être la chose du peuple. On a l'impression que le peuple n'est pas écouté, et d'autant plus qu'on n'apporte pas de solution.
Mais déjà, c'est devenu une dictature. Depuis 30 ans, on subit, on subit, on subit. Il n'y a pas que Macron. On s'est fait avoir par beaucoup. Et aujourd'hui, je crois que Macron a mis la goutte d'eau. Il a posé tout. Malheureusement, on a des retraités qui pleurent. On a des gens qui viennent ici, qui sont à la rue. Et aujourd'hui, il a créé une dictature pure et simple. Il ne s'arrêtera jamais avec ça. Il continuera à faire une dictature. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de le faire repartir. Qu'il prenne sa bonne femme et qu'il s'en va. C'est tout. Et qu'on dissout toute cette assemblée de merde, qui nous prenne du pognon en pagaille et qu'ils essayent de nous écraser. On ne peut pas continuer comme ça.
Il faut continuer le mouvement pour vous.
J'en appelle à tous ceux qui m'entendent, qui vont m'écouter. Je veux bien qu'on est là, on est tous ensemble. Il faut que le peuple descende dans la rue et qu'il fasse un vrai massacre, parce qu'on ne peut pas se laisser écraser. Nous, on sera encore là à Noël, on sera encore là en janvier, février. Les grandes vacances, on ne bougera pas tant que lui ne décrochera pas. Alors moi, je lui laisse un petit message. Il faut qu'il s'en aille direct, avant qu'il mette le pays à le feu. Il y a le feu de partout. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête net et clair. Je remercie la solidarité des personnes de Gap qui nous ont beaucoup apporté, qui nous apportent beaucoup de choses. Et j'espère que ça continuera. Ils nous ont beaucoup, beaucoup de nourriture, beaucoup de trucs pour nous soutenir. Et ça, c'est très bien de leur part et je les remercie beaucoup.
Un extrait d'intervention de Gilets jaunes sur des ronds-points à Gap. Et on voit bien la colère des personnes qui sont là, qui s'expriment parfois maladroitement, mais qui disent des choses qui sont ô combien importantes. Il faut en tenir compte. Et je pense que Emmanuel Fontaine-Domézel, député de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, va en tenir compte. Bonjour Emmanuel Fontaine-Domézel. Merci d'être ici.
Bonjour. Merci de m'avoir accueilli.
On va pouvoir engager le dialogue. Vous avez souhaité le faire la semaine dernière avec les Gilets jaunes. On a pas pu se faire. Ils sont avec nous et je les remercie aussi d'être là. J'espère que vous allez pouvoir vous exprimer et pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, un petit peu comme vos collègues de Gap l'ont fait. Alors je vais vous présenter brièvement les personnes qui vont intervenir. Il y a d'abord Jérémy qui est demandeur d'emploi. Il est originaire et il représente, mais on peut pas dire ça vraiment, disons qu'il est parmi les Gilets jaunes de Manosque. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Charlotte était également à nos côtés. C'est une intérimaire qui vient de Perruy. Merci Charlotte d'être là.
Bonjour, merci à vous de nous recevoir.
À vos côtés, Eric. Eric, lui, il vient du Carrefour aussi, Château Arnoux-Perruy. Et il est en invalidité. Merci Eric d'être présent.
Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui.
Et puis également à vos côtés, Patrick qui est retraité, lui, de Château Arnoux et qui connaît bien Manosque pour avoir travaillé notamment sur ce secteur. Merci également d'être là. Qui veut prendre la parole?
Merci à vous aussi et bonjour à tous.
Qui veut prendre la parole le premier?
Peut-être faire une présentation.
Allez.
Alors, voilà, nous avons souhaité inviter Madame la députée. Parce que on ressent, nous, les porte-voix et administrateurs de groupe, on ressent de plus en plus de tensions de la part des gens, qu'il y a une grosse attente derrière nous. C'est même plus de la colère, on dirait. Ça dépasse le stade de la colère. Actuellement, c'est plus de la rage, hein, pour certains qui veulent gicler Macron, quoi, carrément, quoi. Et de ce fait, nous avons préparé un moratoire avec toutes nos revendications qui fait sur 6 pages. Et une proposition que nous faisons à Madame la députée, nous l'avons invitée pour le dialogue parce qu'on ne veut pas que ça... Nous, on est contre la violence. Tout ce qui est violence, tout ça, on est contre. Après, bon, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas volontaire de notre fait. Et donc, voilà, nous sommes ouverts au dialogue maintenant, mais seulement on souhaite être entendu parce que sinon, on ne pourra plus maîtriser le peuple, quoi. Alors, et on est surtout là pour défendre le peuple.
J'ai bien entendu, vous l'avez invité. Je vous remercie de l'avoir invité ici.
Exactement.
Même sur notre plateau. J'ai donné évidemment mon autorisation à cette rencontre, sachant que je favorise, moi, de mon côté, un média indépendant, le dialogue entre les citoyens de ce pays. Et vous avez dit, alors ce qui ressort de votre intervention, c'est que premièrement, vous avez remis des documents précis avec quelque chose qui a été établi par vos collègues sur les ronds-points et
c'est
sur
un ensemble de choses, quoi.
Et la deuxième chose que je sens aussi, c'est que vous avez peur que l'expression de cette rage ne devienne trop violente et qu'elle soit incontrôlable.
C'est tout à fait ça.
On a surtout besoin qu'on nous écoute.
Donc vous êtes là un peu pour ça. Et Emmanuel Fontaine-Domézel, peut-être une première réaction à cette démarche.
Je voudrais déjà dire que je suis très heureuse que vous ayez eu la capacité de dire qu'il fallait dialoguer. Après, je crois qu'on a été et on se fait tous le constat d'une extrême violence qui n'est pas significative des messages que vous voulez laisser passer. Et je crois qu'il faut discerner ces choses, la violence qu'on peut avoir et est-ce que vous voulez passer comme message. Cette violence parfois vous rend même inaudible. Et pourtant, vous avez des choses à dire. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez des choses à dire. Il y a des choses qui ont été entendues. D'ailleurs, vous avez vu l'actualité de ce matin, par exemple, avec le Premier ministre, un moratoire qui a l'air d'être de s'annoncer. Aujourd'hui, je vous donne juste le contexte, je devais être à Paris justement pour revoir toutes vos revendications, savoir comment le gouvernement pouvait réagir et surtout aussi les parlementaires qui, je le rappelle, sont les représentants du peuple. Et donc je devais être là-bas, je suis avec vous, je partirai rapidement après, justement pour faire remonter toutes ces revendications qu'on entend. Mais je le répète, attention à la violence qui est derrière.
C'est une journée clé, visiblement, hein, sur notre pays, avec des annonces qui vont être faites par Édouard Philippe, dont le fameux moratoire sur les taxes sur les carburants. Je rappelle votre week-end très, très, très animé, Emmanuel Fontaine-Domézel. Vendredi, ça a commencé à Manosque avec un démantèlement programmé du rond-point qui est occupé depuis le 17 mars à l'autoroute 51. Et Jérémy, vous êtes présent sur ce rond-point depuis le 17 mars. Le démantèlement programmé, les gendarmes étaient là, mais tout d'un coup, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel. 200 lycéens sont venus mettre un coup d'arrêt à ce démantèlement. Et évidemment, on sait dans notre pays depuis, devrais-je le rappeler, depuis l'affaire Malik Oussekine, que lorsque les jeunes sont là, le gouvernement fait très très attention. Et heureusement. Et donc, du coup, la force publique s'est retirée. Les gens, de toute façon, les gilets jaunes ont dit, nous, on restera. Et vous pouvez démanteler ce que vous voulez. On remontera nos équipements. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté extrêmement forte là-dedans. Et puis ensuite, directement, votre permanence, Emmanuel Fontaine-Domézel, qui a été visitée à Manosque. Visitée, c'est pas tout à fait le mot. Disons qu'on a déversé devant votre porte du purin, de la terre, et que ça ne vous a pas particulièrement plu. Vous êtes allé au contact des gilets jaunes qui ont fait ça pour essayer de dialoguer. Ça n'a pas été possible et évidemment, vous avez porté plainte. Donc, pour pouvoir déterminer les responsabilités de cet acte qui est un acte délictuel. Le samedi à Manosque, une grosse manifestation en ville avec de la terre qui a été déposée cette fois-ci, c'était devant les impôts. Là aussi, la cible est très symbolique. Et rebelote pour vous devant la permanence de la députée. Bref, il n'y a pas eu de dialogue entre les deux parties. Ce que nous essayons d'instaurer dans ces minutes qui viennent, difficile de demander aux gilets jaunes qui sont là ce qu'ils pensent de ces deux manifestations. À Manosque, une pacifique en ville, avec bien des gens qui s'expriment et oui, on sait très bien que beaucoup de personnes vous soutiennent, on va dire 3 Français sur 4 soutiennent votre combat, et en même temps après des exactions qui sont on l'a vu, contre les impôts, contre une représentante du peuple. Est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous cautionnez ce genre d'action? Et comment qu'est-ce que vous pensez-vous qu'il faut faire pour s'exprimer, Patrick?
Eh bien, moi, je pense que c'est le résultat du fait qu'on n'a pas été entendu. On a commencé à vouloir discuter avec le gouvernement en proposant des choses. La réponse a été une fin de non-recevoir. Il ne faut pas en vouloir aux gens quand ils n'arrivent plus à s'exprimer, quand on ne les écoute pas, quand ils ne sont rien. À un moment donné, ils montrent autrement les choses. Donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous, Madame la députée, vous avez reçu ce, entre parenthèses, message de la part d'une grande partie du peuple français, ou en tout cas des gilets jaunes. Comment vous avez ressenti, hormis le fait que vous ayez porté plainte, que ça a dégradé. Je parle de l'humain qui reçoit ce type de message. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous l'avez ressenti? C'est ça qui m'intéresserait de savoir.
Alors, je suis très heureuse que vous parliez de l'humain, parce que quand il y a des actions comme ça, c'est aussi des actions contre l'humain, contre le citoyen. Je suis une citoyenne française au même titre que vous et je l'ai reçue comme une citoyenne française avec beaucoup de violence. En tout cas, comment je l'ai reçu, le fait d'avoir des immondices devant ma permanence, c'est une chose, voilà, qu'on reçoit comme voilà, en se disant il va y avoir des dégradations et des conséquences. Quand il y a ce genre d'action, il y a des conséquences. Donc, au-delà de ça, puisque c'est pas de ça que vous voulez que je parle, c'est de la façon dont j'ai reçu les choses dans l'humain, dans le citoyen. C'est-à-dire que quand vendredi soir, alors que j'étais en train de travailler à 19h30 dans la permanence, donc des personnes en gilet jaune sont venues devant la permanence, ont déversé de la terre, peu importe, et je suis allée vers eux très calmement, contrairement à ce que j'ai pu entendre, et ceux qui étaient l'ont constaté, je suis allée vers eux en essayant de dialoguer. Et là, il y a eu de la violence. Parce que le silence, le manque de dialogue a été très violent pour moi. Parce que quand vous êtes une représentante du peuple, que vous avez le peuple, qui doit vous passer des messages dont on doit s'imprégner pour pouvoir les aider, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Parce que, je vous rappelle, il y a 18 mois, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu, on a mis dehors les gens qui faisaient la politique depuis 100 ans. Et il y a eu des gens du peuple qui sont venus, qui ont été des parlementaires, qui, moi-même, j'étais infirmière libérale. Je peux vous dire que j'allais chez les gens et je voyais comment, et je vois toujours comment les gens vivent. Je le sais, on va pas me l'apprendre, moi. Moi, j'apprends pas, hein, de comment vivent les gens, comment ils ont les difficultés qu'ils rencontrent pour finir leur fin de mois. J'ai toujours été dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, depuis qu'il m'est arrivé ça, j'ai eu beaucoup de soutien, mais énormément de soutien, je dirais presque des centaines de soutiens, parce que on me dit toujours la même chose. Il se trompe de cible. Ce n'est pas toi, c'est pas possible. On sait que tu es au contact, mais simplement, c'est pas pour moi que je parle. C'est pas pour moi. C'est que je voudrais juste passer un message. C'est que les gens qui sont des citoyens, comme vous et moi, et je me comprends dedans, nous sommes au Parlement. Et si on rompt le dialogue, c'est là que ça devient violent. Alors moi, je vous remercie de vraiment vous m'apaisez parce que quand il n'y a pas de dialogue, c'est encore plus violent.
Et les gens que vous avez rencontrés la dernière fois, ne sont pas représentatifs des gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont pas des casseurs, ne sont pas, c'est pas eux qui sont violents. Les réactions violentes viennent parce que le gouvernement nous prend pour des imbéciles. Et moi, qui fais partie de la classe laborieuse, je suis moi aussi en colère. Et on est en colère qu'on nous écoute pas. On ne vous a pas écouté, madame, le jour où les gens vous ont déversé le purin, mais c'est l'exemple des gens qui ne sont jamais écoutés depuis des années. On ne nous écoute pas, on ne prend plus en compte.
On pourrait craindre d'ailleurs que cette dérive aille beaucoup plus loin, on l'a vu.
Les réactions indépendantes des gens ne peuvent pas les contrôler.
J'ai dit que cette journée était cruciale, c'était une journée clé, mais la semaine elle est cruciale aussi, parce que samedi, normalement, il y a d'autres manifestations qui sont prévues, oui. Il y a d'autres activités, il y a la marche pour le climat sur lesquelles Christophe Castaner demande à ce qu'il y ait une suspension de cette marche. Pour quelles raisons on l'ignore, alors que c'est programmé depuis plusieurs années, une marche pour le climat, plusieurs mois en tout cas. Et donc on sent bien qu'il y a une tension énorme et qu'il faut absolument la faire redescendre. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Vous allez rencontrer le Premier ministre tout à l'heure, Emmanuel Fontaine-Domézel. Il va passer des messages aussi dans ce sens. C'est ce qu'on peut attendre. C'est ce que vous attendez.
Mais attendez, s'il vous plaît, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Castaner là, à propos d'annuler la marche et de mettre une pause. Mais est-ce qu'ils mettent une pause dans les taxes, tout ça? Il y a encore plus 0,7% de taxes en plus et d'impositions à partir de janvier 2019. Comment on va faire? Déjà que le 10 du mois, on n'a plus rien. Comment on va faire pour... On ne parle plus de vivre. Actuellement, c'est de survivre qu'on parle. On parle de survie. Je vais juste vous rappeler un détail. Nous sommes des petits villages ici. En 10 jours, il y a eu 4 suicides. Ça vous va? Ça vous parle pas, 4 suicides en 10 jours dans nos petites localités?
C'est
poignant, je veux dire.
Tous les jours.
Et je voudrais rebondir aussi, on nous critique sans arrêt la violence. Mais la violence, l'injustice sociale, elle est où? De qui elle vient, l'injustice sociale? Elle vient bien du gouvernement. C'est eux qui sont les fauteurs de troubles en premier. Et ça, personne n'en parle. C'est pour ça que je voudrais rebondir là-dessus. Parce que là, on n'en finit plus. C'est du matraquage fiscal. Ça a commencé par les suppressions des allocations familiales, les 5 euros. Après, ça a été les APL. Et c'est la CSG sur les retraités, sur les invalides. On a retiré les aides aux handicaps pour les travailler. C'est le DF, c'est le autoroute qui prennent une marge astronomique. On apprend que Carlos Ghosn il gagne 42 000 euros par jour. C'est sans fin, quoi. Je veux dire, l'EDF qui a placé 27 milliards au Luxembourg, alors comme ça, discrétion. Et là, vous devez vous rappeler une chose, la première mesure de Macron, enfin, moi je m'en rappelle, hein, je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, il a supprimé 3100 inspecteurs de Bercy qui étaient là pour l'évasion fiscale. Aujourd'hui, hier, il y avait un article de Marianne qui était très bien écrit, qui disait « La fourchette haute de l'évasion fiscale est actuellement à 100 milliards. » C'est les 100 milliards qui manquent aujourd'hui pour que tout le monde soit heureux. Et le gros problème qu'il y a actuellement, c'est que le gouvernement nous a divisés. Et la réussite des Gilets jaunes, de ce mouvement, c'est la cohésion et la solidarité des gens. Il y a des gens qui viennent, qui nous donnent à manger, qui nous tenez 5 euros, si je fais ce que je peux, je vous apporte un peu de soupe et tout. Mais c'est formidable, ça. C'est ça la fraternité de la France. Ce n'est pas je vais faire une taxe plus une autre. C'est ça le ressenti qu'on va vous exprimer aujourd'hui. C'est cette colère interne. C'est une souffrance morale et une blessure.
En même temps, c'est pour ça que 3 Français sur 4 soutient votre mouvement.
Oui,
il faut être clair.
C'est une énorme injustice sociale.
Emmanuel Fontaine-Domézel, quelle marge de manœuvre pour des députés dans ce cadre-là, de dire il y a quelque chose qui est en train de se casser entre le peuple et leurs représentants, et à plus forte raison, leurs dirigeants?
Moi, je lisse nos fonctions et ce qu'on est. Je reviens à ce qu'on est, nous sommes tous là. Autour de la table, nous sommes des citoyens français de la République. Enfin, pour moi, ça veut dire énormément. On a des droits, on a des devoirs et on a aussi des responsabilités. On a tous des responsabilités. Quand on fait partie d'un groupe, on a des responsabilités communes. J'essaie de reprendre les points que vous avez abordés. En ce qui concerne les violences, j'entends que vous n'êtes pas les Gilets jaunes casseurs. Mais vous faites partie d'un groupe, attention, rien contre vous. J'entends bien, on se retrouve en dialogue ici, rien contre vous. Mais quand on fait partie d'un groupe, attention, et nous sommes des citoyens, on a des droits. On a des devoirs, mais on a aussi des responsabilités, de la même manière. De la même manière.
Ensuite, vous dites ça.
Comme les gens,
on peut vous parler la même chose.
Mais oui,
vous êtes député.
Oui,
vous faites partie de la violence aussi.
J'ai commencé.
Emmanuel Macron,
en même temps, s'il vous plaît.
Excusez-moi, j'ai commencé comme ça. J'ai dit, je ne fais pas de différence. Je lisse les choses et nous sommes égaux autour de cette table. J'ai des devoirs, j'ai des droits et j'ai des responsabilités de la même manière que vous. De la même manière
vous
que vous,
pas
je ne lisse pas.
Oui.
Mais vous avez des devoirs envers le peuple.
Oui.
Vous êtes élu par le peuple.
Mais bien sûr.
Vous
j'ai
devez
des
représenter
devoirs.
La voix du peuple.
Mais bien sûr.
Vous devez entendre que si je regarde.
Alors, si je reprends chaque point, je ne peux pas reprendre chaque point que vous avez dit. Je ne peux pas reprendre chaque point parce que je m'en excuse. Je m'en excuse. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des choses plutôt vraies, il y a des choses plutôt fausses. Mais derrière tout ça, je ne vais pas prendre chaque point, c'est ridicule. Mais par contre, ce que j'entends, c'est que vous n'en pouvez plus. C'est ça qu'on doit entendre. C'est pas des revendications au micro, à regarder le petit truc qui vous ennuie. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il y a des citoyens français qui ont des droits, des devoirs, des responsabilités, mais qui finissent pas leur fin de mois. Et ça, je l'entends. Ça, je l'entends. Et je crois que vous avez été entendu. Et quand on est entendu, je crois que quand on est entendu, il faut à un moment donné se dire, attention, Nous, moi, j'en appelle au calme. Mais enfin, je ne sais pas si vous les avez vues, ces images de samedi dernier. J'en appelle au calme.
Et la violence policière, on
vous
en parle
entendu
aussi.
Et on est là pour vous représenter, comme je vous le dis. Moi, je vous représente, mais ça ne date pas des gilets jaunes.
Oui, mais vous, ça peut-être, vous me représentez.
Mais moi, je suis quelqu'un... Il y a 18 mois, je faisais partie des personnes qui me levaient le matin très tôt pour aller travailler, pour porter ma contribution à la République. Je suis quelqu'un comme vous. Mais c'est ça, il n'y a pas de rupture entre vous et nous. Et j'ai les oreilles pour vous entendre, j'ai des yeux pour vous voir et j'ai un cœur pour comprendre. Ah. C'est ça que j'aimerais que vous ayez en tête. Mais mon niveau, c'est la représentation du peuple. Vous savez, je l'ai pris très très fort. Vous rendez compte quand on représente et qu'on nous reproche de pas représenter. Mais c'est, on se dit, comment on fait? Comment on
D'accord.
fait? Et on est tous en train de réfléchir, se dire, on les a entendus, on ne peut plus supporter que des hommes et des femmes en gilet jaune ou alors avec une tenue de police ou de gendarme vivent des violences. Comment on fait? Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait des morts? Est-ce qu'on va en rajouter? Regardez, faites le point de ces actions. Moi, je vous entends, mais faites le point des actions. On vous entend, il faut du calme, du dialogue. Il faut qu'on on peut pas partir dans tous les sens, mais par contre on comprend que il y a des citoyens français qui ne finissent pas la fin du mois. Mmh. Juste une chose. Je suis en local, je suis en proximité. Pour vous dire, et je suis contente qu'on parle de cette proximité de notre département qui, je pense, est exemplaire. Les violences n'ont pas été importantes sur notre département. Il y a une solidarité, utilisons-la. Et par contre, j'en appelle aussi à ceux qui sont en difficulté aujourd'hui dans notre département. Il y a du cas par cas. N'oublions pas que nous sommes des individus avec des vies totalement différentes les uns des autres et qu'on peut apporter une réponse adaptée à chacune des personnes. Je reçois un vendredi sur deux les bénéficiaires du RSA. Un vendredi sur deux. Je connais des histoires de vie. Vous avez des histoires de vie. Je ne suis pas en train de comparer ni votre vie avec la mienne. Effectivement, on n'a pas la même vie, mais vous n'avez pas la même vie que votre voisin, même votre voisin qui a un gilet jaune. Vous êtes deux gilets jaunes avec deux vies différentes.
On se bat tous ensemble.
Donc, ce que je veux dire,
chose.
Moi, j'en appelle aussi à la proximité. Si vous avez des difficultés, je vous rappelle que sur notre département, on peut aussi vous aider au cas par cas. Ne l'oublions pas. Non, mais j'entends les revendications nationales. Non, mais trop. Mais il y a des histoires humaines personnelles de personnes qui sont sur notre département et aussi où on doit se pencher. Je reçois à ma permanence beaucoup de monde, hein, pas que du Purin ou de la Terre. Je reçois beaucoup de monde. Et je reçois des histoires de vie pour lesquelles j'essaie d'aider, mais aussi d'aiguiller, de dire, de mettre en réseau. Mais c'est à chacun de nous aussi de se dire, en proximité, on doit aider.
Alors, il y a, juste avant de passer la parole à Jérémy, qui a des choses intéressantes à nous dire sur l'occupation d'un rond-point à Manosque, de manière très concrète, je voudrais évoquer deux sujets. On n'aura pas la réponse ici même, mais le malaise, il dépasse largement le cadre des gilets jaunes. Vous avez parlé des forces de l'ordre. Là, il y a un malaise terrible. Les forces de l'ordre n'en peuvent plus. On risque d'avoir de gros problèmes, de gros soucis. Et je sais, Emmanuel Fontaine-Domézel, que vous avez des contacts privilégiés avec notre ministre de l'Intérieur, que l'on connaît fort bien ici même. Et il faut l'alerter là-dessus, parce que ils sont les policiers, les gendarmes sont pas là pour casser le peuple français non plus. Donc à un moment, il va falloir que, avant qu'il y ait quelque chose de dramatique à ce niveau-là, qu'il y ait une décision politique au plus haut niveau qui se passe là-dessus, et notamment sur cette journée de samedi qui s'annonce aussi très importante. Le deuxième élément que je voulais évoquer, j'ai pas la solution, mais en tout cas je le ressens moi sur le territoire, ce sont les pertes économiques des blocages, aussi bien au niveau des commerces que des entreprises. Et là aussi, il y a quelque chose à faire rapidement. On a des besoins. On est en période où normalement les commerces devraient pouvoir vivre et faire vivre des chiffres d'affaires importants, puisqu'on est dans la période de Noël. On est une période de fête aussi où on doit tous se retrouver pour fêter quelque chose tous ensemble et notamment une famille particulière. Eh bien, on est à côté de tout cela aussi. Donc, les gouvernants doivent tenir compte de ça. Et je sais que Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, a alerté Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur cette situation, car il y a des milliards d'euros, ça veut dire tout simplement des licenciements à la clé. Donc, il faut faire très attention à ça. Revenons à Manosque, si vous voulez bien. Jérémy, vous êtes originaire de Manosque, et depuis le début, vous êtes demandeur d'emploi depuis le début, depuis le 17 mars. Vous êtes sur le rond-point de Manosque. Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Qu'est-ce qui me fait courir ? Les jeunes. Le jeune me fait courir. Les gens. Voilà. Vous, la dame à côté de moi, le jeune qui va bientôt grandir et qui va devoir s'en sortir comme nous, qui s'en sortira peut-être jamais. On m'a posé une question tous les jours. Voulez-vous tes enfants ? J'ai répondu oui, mais non en même temps, parce que que vont devenir nos enfants plus tard? Un exemple simple, hein. Nos enfants, nos anciens, j'ai un oncle qui a 80 ans, qui manifeste, qui est obligé de travailler dans la maçonnerie parce qu'il touche 800 euros de retraite par mois, en payant toutes ses charges, tout ça, il ne s'en sort pas. Dites-moi, on nous dit qu'on nous écoute. Alors très bien, vous nous écoutez, madame la députée, vous, hein. C'est génial, le 04 nous écoute, on nous entend, c'est bien. Mais les autres, ils écoutent pas. Quand nous sommes allés devant chez Castaner, on s'est fait incendier sur les journaux derrière, qu'on a fait des insultes homophobes, tout ça. Je sais pas si vous voyez la photo, j'y suis dessus, je l'assume. On joue un, deux, trois soleils devant et on prend une photo avec les gendarmes qui sont les trois quarts de notre parti à nous, hein. Ils peuvent pas porter le jaune, mais ils sont avec nous. Alors, répondez-moi à ma question, madame, pourquoi tout est déformé?
C'est une question qui concerne les médias, plutôt. Est-ce que je dois vous faire un message en disant que beaucoup de médias, aujourd'hui, dans notre pays, audiovisuels ouais. notamment, mais la presse écrite aussi, sont à la botte du capital?
Bien sûr, on l'affirme tous.
Mais évidemment.
Monsieur Castaner, c'est pas qui a rédigé son truc à la télé, là. Et c'est bien lui qui a écrit, qui a parlé. Hein,
quand alors, même. Il n'est pas là, malheureusement, pour se défendre ou pour se justifier. On pourra peut-être le joindre lorsqu'il sera un petit peu libéré cette tension particulière au niveau national.
S'il vous plaît, une petite précision par rapport à ce qu'il dit, par rapport aux gendarmes qui étaient en surveillance à la maison de M. Castaner. Je voudrais juste vous préciser que j'ai eu plusieurs dialogues avec des gendarmes. Ces pauvres gendarmes ont reçu un blâme par leur commandante. Parce qu'ils se sont fait prendre en photo devant.
Ils étaient juste derrière les gilets jaunes. Et on les punit d'être pacifistes. Voilà. Et après, on nous demande de ne jamais répondre par la violence.
On leur répond par une sanction.
Oui, c'est
pas normal.
C'est curieux. On pourra se renseigner pour voir ce qu'il en est. Mais c'est vrai que ce qui ressort de cette occupation, entre guillemets, de la maison privée de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, c'est une occupation qui était plutôt positive et en même temps pacifique, avec un, deux, trois soleils, voilà. Un petit jeu sans violence. C'était simplement pour attirer un petit peu l'attention sur un élu local qui est devenu un élu national, un responsable national, et à quel point ministre de l'Intérieur. Ouais, donc, surtout en cette période, terrible, particulière. Et est-ce qu'on peut dire quand même que Christophe Castaner a très peu d'expérience dans le domaine?
Oui, mais bon.
Heureusement qu'il est soutenu par Laurent Nunez, qui lui connaît bien la police. Le secrétaire d'État qui travaille avec lui est un policier de métier et qui connaît tous ses fonctionnements. Il doit se justifier aujourd'hui même, d'ailleurs, Christophe Castaner, devant le Sénat, devant les députés aussi, certainement. Donc il va y avoir des explications, ce qui n'excuse en rien les incompétences ou les maladresses qui ont été faites. Et en même temps, il faut arriver à identifier les casseurs. Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une manifestation en France, il doit y avoir des black blocs et des casseurs d'extrême droite comme d'extrême gauche? La question est posée.
Mais il y en a toujours. À la Coupe du Monde, il y a des casseurs. On n'interdit pas la Coupe du Monde.
Oui, comme chez les CRS qui sont déguisés et qui vont aussi casser. Parce
voilà.
Que,
on a...
Alors ça je vous laisse responsable de ce que vous dites.
Je suis responsable de ce que je dis. Effectivement, certains gilets jaunes de Paris ont bien isolé des groupes
en vidéo.
Voilà. Et effectivement, quand on raccompagne quelqu'un, un gilet jaune, en lui tapant sur l'épaule, en lui disant « vas-y, on t'a arrêté pour de fou, vas-y ». Faut arrêter, je veux dire. Nous aussi, on n'est pas aveugles, on n'est pas stupides.
D'autant plus que maintenant, n'importe qui, pour pas dire tout le monde, avec un portable, peut faire des photos et peut faire des films qui peuvent se retourner ensuite. Je vais vous demander à chacun peut-être une conclusion rapide de ce que vous avez vécu là, ce moment d'échange. On va peut-être commencer par vous, Patrick. Comme ça, vous gardez le micro.
Oui.
Votre sentiment sur ce que vous venez de dire.
Je pense qu'il faudrait des débats plus souvent, parce qu'on ne peut pas tout dire en si peu de temps. Voilà. Juste vous dire une chose, madame, c'est bien que vous soyez venue, mais quand on a 10% des Français les plus pauvres qui ont moins de 610 euros pour vivre, il faudrait peut-être se réveiller en haut lieu. Et quand on entend que des députés ou des ministres s'augmentent ou se prennent l'avion de ceci, dépensent les sous comme si c'était rien, or que nous, on n'arrive pas à la fin du mois, que les retraités galèrent, si on demande par exemple une aide à l'État pour payer la taxe d'habitation ou quoi, c'est des faits de non recevoir. Et en plus, si on ne paye pas dans l'État, on a en plus la taxe de plus, parce qu'on n'a pas payé dans les délais imposés. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont dures à vivre au quotidien. Nous, on le vit au quotidien. Voilà. Nous, notre Noël, ça va être vite réglé. On va le passer sous les feux, avec autour du feu, les ronds-points. On n'a pas besoin de grand-chose, en fait, de compte, si vous voulez. On ne va pas avoir besoin de grand-chose, on est habitué.
Mais merci, bon. Merci Patrick. Eric, son
Alors,
sentiment.
Moi, je voudrais surtout rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, notre député, et rejoindre ce qu'il disait Jérémy. Vous dites, au cas par cas, vous êtes capable d'aider, mais seulement les CCAS, les mairies, n'ont plus de subventions, ils ne peuvent plus aider de leur côté. Les départements n'ont plus d'argent. Je vous signale même que les départements, j'ai une amie qui travaille au département, ils récupèrent même l'argent des obsèques et tout pour financer d'autres choses, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Les subventions sont mises à plat, à zéro. Il n'y a plus d'argent pour les subventions. Et moi, je le vois tous les jours. Tous les jours, les gens me parlent, ils me disent, c'est ça le problème des localités, de la ruralité aujourd'hui. Et en plus, on est obligé de se déplacer. On est matraqué, on est plus fliqué que les djihadistes aujourd'hui, plus que les terroristes. On a des caméras partout qui nous suivent au moindre kilomètre heure après. Bam, pas trop près une prune. C'est le matraquage fiscal. C'est intolérable, c'est infect ce qu'on vit aujourd'hui. Et surtout, c'est qu'il n'y a plus de moyens.
Et vous avez raison.
Tous les moyens sont absorbés.
Sur le territoire, il n'y a pas assez d'argent pour
développer
l'activité.
C'est ça, il n'y a plus d'argent.
Et c'est bien dommage.
Et il faut bien préciser qu'il y a un maire sur deux du département qui ne veut plus se présenter.
Oui.
On l'a encore eu mardi dernier, M. Spagnou, il a dit, on n'en peut plus, et bientôt, c'est les gilets jaunes, c'est les écharpes bleu, blanc, rouge qui vont descendre sur le terrain, il nous a dit mardi dernier. On avait un rendez-vous avec lui mardi dernier, on y a remis aussi un moratoire de 3 pages, et il nous a dit, mais les écharpes bleu, blanc, rouge vont rejoindre parce que c'est un ras-le-bol. Il y a la moitié des maires, il y a presque 60% des maires qui ne veulent plus se présenter. Voilà, je laisse la parole à Charlotte.
Merci Eric. Daniel Spagnou, c'est le président de l'association des maires du département des Alpes-de-Haute-Provence. Charlotte, c'est à vous.
On est très content d'avoir été écoutés, déjà, mais ça ne suffira pas, il en faudra plus. On est en train de se construire pour s'organiser, pour être entendus correctement. Justement, chez nous, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de religion. On est tous ensemble et on s'écoute et on s'épaule et on s'aide tous ensemble. Et sachez une chose, c'est que moi, je suis une Gauloise réfractaire et on lâchera rien. Tant que ce sera comme ça, on lâchera rien. Non.
C'est bien, il y a de l'expression, c'est bien. Merci Charlotte, Jérémy.
Alors moi, merci Madame la députée d'être avec nous, nous avoir écoutés. Moi, j'étais peut-être un peu plus direct. Moi, je trouve que ce débat était très intéressant, mais ça ne changera rien. Je suis sincèrement, c'est pas les deux petites phrases qu'on a dit là. Est-ce qu'on va nous écouter? Vous avez essayé de remonter les informations aux autres députés. Est-ce qu'ils vont nous écouter? On ne nous écoute pas depuis le début. Donc pour ma part... C'était très intéressant le débat, mais je pense que ça amènera à rien. Donc il faut continuer. Et vous dites la violence des gilets jaunes, mais vous lancez l'essence dessus, pas vous madame directement, hein. L'État a voulu lancer de l'essence dessus, excusez-moi, c'est que le début. Voilà.
Donc on sent...
Disons qu'on ne mangera pas avec une fenêtre, comme nous l'a proposé Macron.
C'est impossible. Et pourtant, j'ai traversé 15 fois par jour. Hein, pour avoir du travail, je n'en ai pas trouvé encore. Je voulais m'embaucher.
La déception donc du côté de Jérémy. Et moi, je reste quand même confiant, personnellement. Mais on verra.
L'espoir fait vivre. Attention, je n'ai pas dit que je n'étais pas confiant. J'ai dit...
Bien sûr qu'on est positif, sinon ce n'est pas là.
On essaye d'être positif, on est là. Parce qu'après, une seule personne qui nous écoute et qui nous comprend, c'est très bien. Parce que les autres vont écouter aussi ce que va dire madame. Ça va
Justement, on va lui passer la parole à Emmanuel Fontaine-Domézel, député des Alpes-de-Haute-Provence, et qui va rejoindre dans pas très très longtemps ses collègues à l'Assemblée nationale pour écouter justement Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée.
Moi, déjà, merci beaucoup aux Gilets jaunes, ces quatre Gilets jaunes. Vraiment, déjà, c'est mon premier message. Merci Fréquence Mistral d'avoir organisé ce dialogue. Je crois que même si vous avez la sensation que ça changera rien, je crois que ça permet aussi de se rencontrer. Et se rencontrer, d'abord, c'est un premier contact.
C'est ça, tout à fait.
J'en espère d'autres. Et vous savez, je pense que on a tous des électrochocs. On est tous blessés intérieurement de ce qui se passe, de ce qu'on peut apporter. Notre République, parce qu'on a une chance, on est en France et voyons la chance aussi qu'on a, mais on peut pas oublier, parce qu'on a de la chance, qu'il y a des gens qui finissent pas les fins de mois. Moi, je rappelle toujours ça. On ne peut pas l'oublier. Et quand Emmanuel Macron est arrivé, on a fait des constats de notre France dans une vraie difficulté, une vraie précarité. On peut pas effacer toutes les mesures qui ont été prises pendant 18 mois pour la santé. On a fait un constat qu'il y avait quand même, enfin, je ne sais pas moi, il y a un chiffre qui me choque à chaque fois, un enfant sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, c'est parlant ça, c'est parlant. Est-ce qu'on peut imaginer une seconde qu'on ne fasse rien quand on fait ce constat? Alors, on aura l'occasion de parler des mesures, parce que je crois qu'il y a aussi, on a aussi un devoir de communiquer sur ce qu'il se fait, de savoir comment ça va être mis en place, mais on a aussi le devoir d'entendre qu'à un moment donné, il y a une urgence. Ah. Et cette urgence-là, vraiment, cette urgence-là, on a besoin de discuter là-dessus. Ensuite, je ne reviendrai pas sur les subventions, sur ce que donne l'État au département. Enfin, on en parlera en off sans problème. Par contre, moi, ce que je n'oublie pas, c'est ici, nous sommes, et je le répète parce que pour moi, ça veut dire quelque chose, encore une fois, nous sommes des citoyens français. Exactement. Avec chacun de la même manière, nous sommes des citoyens français. Et je ne sais pas si ça vient de la Gaule, mais en tout cas, moi, je suis une citoyenne française de la République et moi non plus, je ne lâcherai rien.
Ah, mettez vos gilets jaunes, madame, et venez avec
non,
moi.
Non, parce que je ne confonds pas mon rôle. Écoutez, c'est pas endosser, c'est pas dire je mets un gilet jaune. Travailler pour les citoyens français, c'est pas mettre un gilet jaune. Je vais pas prendre les rôles de tous les citoyens français. Oui, mais... Par contre, je vais les écouter les uns après les autres. Mais comme j'ai toujours fait, je vous le dis, il y a 18 mois, il y a tout un tas de députés de la société civile qui sont arrivés. S'il vous plaît, moi juste une chose, hein, c'est comme au foot. Quand il y a un nouvel entraîneur, s'il plante ses deux premiers matchs, hein, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que ces joueurs sont mauvais. Laissez le temps aussi aux choses. Laissez le temps, même si j'entends cette urgence, mais on a besoin de se retrouver ensemble et de faire. Et c'est ensemble qu'on changera les choses.
Mais actuellement, hein.
Je ne changerai pas les seules choses.
Je vous ai parlé d'urgence.
Hein, je vous ai parlé d'urgence et c'est sur ça qu'on doit travailler ensemble. Mais il y a plusieurs temps. Il y a l'urgence, il y a le temps pour ces prochaines années, et puis il y a aussi, on doit réfléchir sur le long terme aussi.
On va tous vous remercier d'avoir participé à ce moment qui est un moment de dialogue. On espère que les choses vont s'améliorer pour notre pays, tout simplement, et pour évidemment chaque citoyen de ce peuple. Je vais remercier Jérémy, Charlotte, Patrick, Eric, et puis aussi Emmanuel, puisqu'on peut l'appeler aussi par son prénom, puisque c'est une citoyenne comme nous.
On ne lâchera rien.
Merci aussi James pour la régie. Juste une information, demain nous allons parler, et demain je vous informerai sur la réunion de la CLIS et la commission locale d'information ITER qui aura lieu à Manosque, et puis j'aurai le plaisir de recevoir Jérémy Béchon qui nous parlera d'un spectacle, la Marseillaise, etc. Justement, on est justement dans cette notion de peuple français. Il y aura aussi un reportage sur une charte signée entre la Chambre des métiers de l'artisanat régional et la commune de Gap, de Man, pardon. Et puis Gap qui s'apprête aussi à marcher pour le climat et contre les pesticides. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir et à entendre avec Fréquence Mistral. Merci encore à tous les cinq d'avoir été mes invités. Bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.